Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, ravis de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. Le Saint-Père a adressé vendredi 31 mai un message aux participants au congrès de l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre réuni du 30 mai au 2 juin à Valence en France. François les a invités à promouvoir l'éducation intégrale de l'homme pour assurer la construction d'un monde plus humain et lui garantir sa dimension spirituelle. Le mois de mai s'achève avec la fête de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie. Au Tchad, plus de 600 membres du mouvement Kotar Yamari de l'archidiocèse de N'Djamena sont en pèlerinage marial depuis vendredi 30 mai 2024 sur les sites mariales de Siaba. Nous y reviendrons de l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi au Togo. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye était jeudi au Mali et au Burkina Faso. Une première visite depuis son arrivée au pouvoir dans les pays de l'AS, l'Alliance des États du Sahel. Nous en parlerons dans l'actualité sociopolitique africaine qui nous conduira entre autres au Burkina Faso et au Nigeria. Dans la deuxième partie de cette édition, nous écouterons le père Jean-Claude Mijiri, secrétaire chancelier du vicariat apostolique des Comores, avant de conclure avec le magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine. Ce sera tout pour les titres, les détails dans un instant dans cette édition.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
Le Saint-Père a adressé vendredi 31 mai un message aux participants au congrès de l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre, appel en sigle, réuni du 30 mai au 2 juin à Valence en France. À cette association réunie pour réfléchir sur leur mission au service de la communauté éducative, François a invité les membres de l'appel à promouvoir l'éducation intégrale de l'homme pour assurer la construction d'un monde plus humain et de garantir sa dimension spirituelle en aidant les jeunes à découvrir le projet de Dieu pour chacun d'entre eux. En outre, face aux défis posés par l'intelligence artificielle et à la façon dont elle bouleverse, au-delà des modes d'apprentissage, la manière de penser par soi-même, le pape a exhorté les membres de l'association à faire de l'école communauté une véritable école de vie permettant à leurs enfants d'affronter un monde difficile, mais illuminé par l'espérance, une espérance fondée sur les promesses du Christ, lui qui ne déçoit pas. Monseigneur Paul Richard Gallagher a entamé jeudi 30 mai, et ce jusqu'au samedi 1er juin 2024, une visite de 3 jours en Croatie à l'occasion de la fête de Notre-Dame de la Porte de Pierre en réponse à l'invitation de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Dražen Kutlesa. Au programme, une rencontre avec le Premier ministre Plenković et le ministre des Affaires étrangères Glik Radman, ainsi qu'une conférence à l'Université catholique croate dont il inaugurera la bibliothèque. Notons que le 28 mai 2024, le secrétaire du Saint-Siège pour les rapports avec les États et les organisations internationales avait présidé la messe de la fête nationale de la Croatie en l'église San Girolamo à Rome. Au cours de la célébration, il a rappelé que les contacts entre le pays et le Saint-Siège n'ont jamais faibli malgré quelques batailles au cours de l'histoire. Dans son homélie, le prélat a également invité les fidèles à prier pour toutes les nations touchées par les guerres et les conflits et à remercier Dieu pour le don de la liberté et de la paix en Croatie. Avec la fin du mois de mai, s'achève aussi le mois marial. Au Tchad, plus de 600 membres du mouvement Kotar Yamari de l'archidiocèse de N'Djamena sont en pèlerinage marial depuis vendredi 30 mai 2024 sur le site marial de Siaba. Le compte-rendu d'Edouard Takadji.
Chants, récits des chapelets et prières ont rythmé la marche des pèlerins de la paroisse Saint-Charles de Borromée de Farcha jusqu'au site marial de Siaba. Là, ils passeront 4 jours d'intense activité allant de la prière à l'adoration du Saint-Sacrement, au chemin des croix, à l'enseignement sur la vie de la Sainte Vierge Marie et de bien d'autres saints. Avant la bénédiction et l'envoi des pèlerins, l'abbé Patrice Mbaye Ornom, curé de la paroisse Saint-Charles de Borromée de Farcha, a célébré une eucharistie au cours de laquelle il a centré son homélie sur l'amour et la paix, tout en demandant aux membres de ce mouvement de s'ouvrir aux autres pour faire connaître le Christ.
Que le Seigneur fasse de nous des pèlerins à la suite du Christ, des pèlerins de joie, des pèlerins de conviction, de foi profonde, sincère, de pèlerins aussi d'ouverture, car notre Église même est ouverture universelle. Que la grâce de Dieu nous modèle à l'exemple de l'ouverture du Christ lui-même. Et que ce temps que nous allons prendre pour vivre avec le Seigneur loin de nos familles. Évitez seulement dans votre passage, dans votre vie d'étranger là, les convoitises qui ternissent l'image de la chair et qui détruisent l'âme.
Ces pèlerinages offrent un cadre d'échange, de partage et de ressourcement spirituel aux membres de ces mouvements qui sont allés à la rencontre du Seigneur. N'djamena, Edouard Takadi, Radio Vatican.
Et rendons-nous au Togo où notre correspondant Gustave Wan nous parle du déroulement de l'Assemblée générale du Conseil épiscopal national catholique pour les communications sociales qui s'est tenue du 28 au 31 mai 2024 dans le diocèse d'Atakmé.
Le Conseil épiscopal national catholique pour les communications sociales tient ces jours son assemblée générale dans le diocèse d'Atapamé. Monseigneur Touo Moïse, évêque en charge des communications sociales au sein de la conférence épiscopale du Togo, nous situe l'enjeu de cette assemblée.
Revoir notre feuille de route et d'y penser sérieusement, vu que la communication sociale dans le pays n'est pas ce qu'elle doit être. Il y a beaucoup de défis à relever, donc il faut cette assemblée générale pour revoir ensemble ce que nous devons faire, c'est-à-dire l'évangélisation du peuple de Dieu au Togo.
Y a-t-il satisfaction à l'issue de ces 3 jours de travaux? Monsieur Amévi Dabla Sylvestre nous répond.
Avec toutes les décisions que nous avons eues à propos du Conseil épiscopal national de communication sociale et le journal Présence chrétienne, le terrain est déblayé pour que tout le monde puisse savoir qu'est-ce qu'on va faire désormais pour que nous puissions avancer.
Et quels sont les moyens pour mobiliser les ressources afin de renforcer les capacités des différentes structures de communication sociale au Togo? Monsieur Seto, président de Radio Maria.
Il faudrait nécessairement, dans un premier temps, rassembler les énergies, renforcer la capacité des dirigeants et approcher ce qu'il faut approcher.
Gustave Wam, Atapame pour Radio Vatican.
Faisons place à présent à l'actualité sociopolitique africaine. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit gravement préoccupé vendredi par l'augmentation des meurtres de civils au Burkina Faso et a exigé une enquête indépendante et transparente sur les allégations de violation des droits humains. Je suis profondément troublé par le fait que les forces de sécurité et de défense et leurs auxiliaires, les volontaires pour la défense de la patrie, auraient commis des meurtres gratuits, notamment des exécutions sommaires, écrit Volker Türk dans un communiqué, même s'il reconnaît que des groupes armés sont sans doute responsables de la grande majorité des incidents. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye était jeudi au Mali et au Burkina Faso. Une première visite depuis son arrivée au pouvoir dans les pays de l'AS, l'Alliance des États du Sahel. Au Burkina Faso, le président sénégalais a témoigné son soutien et sa solidarité à ce pays qui traverse une crise sécuritaire difficile. Il a aussi prôné le dialogue dans un contexte où le Burkina, comme le Mali et le Niger, ont quitté la CEDEAO. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Après Bamako, Diomaye Faye est arrivé hier après-midi dans la capitale burkinabé, où il a eu un tête-à-tête avec le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Il dit être venu dire au président Traoré toute sa solidarité et sa fraternité avec le peuple burkinabé dans la période difficile qu'il traverse et lui dire aussi son admiration pour la vaillance de ce peuple, sa combativité et sa résilience, dit-il. Et sur le sujet CEDEAO, voilà ce que dit le président sénégalais.
Je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées, mais je perçois dans chacune de ces positions une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil, si tenu soit-il, du dialogue.
Bassirou Diomaye Faye a quitté Ouagadougou en fin de soirée. Il dit repartir du Burkina très réconforté de l'ouverture d'esprit et de la disponibilité du président Ibrahim Traoré à renforcer l'axe Dakar-Ouaga pour développer davantage les échanges et la coopération. Ouagadougou, Lamine Traoré pour Radio Vatican.
L'ANC au pouvoir en Afrique du Sud a enregistré vendredi un net recul dans les urnes selon des résultats partiels des législatives les plus contestées depuis la fin de l'apartheid, laissant entrevoir une perte historique de sa majorité absolue au Parlement. À plus de 56 voix des votes comptabilisés dans la matinée, le Congrès national africain, ANC, continuait de perdre du terrain en se plaçant à 41,9% des suffrages exprimés selon la commission électorale. L'armée nigériane a affirmé vendredi dans un communiqué que des séparatistes du sud-est du pays avaient tué la veille 5 soldats à un poste de contrôle. L'armée a accusé la branche armée de l'IPOB, le principal groupe séparatiste au Nigeria, le mouvement des peuples autochtones de Biafra, IPOB, affirmant dans son communiqué qu'elle avait lancé une attaque surprise sur le poste de contrôle près d'Aba, dans l'état d'Abia. L'attaque a malheureusement coûté la vie à 5 personnes, a déclaré le porte-parole de l'armée, le général Edouard Bouba. Donnons à présent la parole au père Jean-Claude Migiri, secrétaire chancelier de Mgr Charles Maouza Yava, l'évêque des Comores. Avant d'avoir une vue plus large de l'organisation du Jubilé 2025 dans son pays, le père Migiri nous parle des défis et priorités de l'Église catholique aux Comores.
Une année jubilaire est une année de grâce. Mais je ne saurais pas vous dire aujourd'hui et maintenant tout ce que nous allons faire avant de nous asseoir avec son Excellence Mgr Charles Maouza Yava pour voir ce que nous pouvons faire. Je sais que nous pourrons penser à ce que nous puissions déléguer certaines personnes, soit les jeunes, soit les adultes, qui viendront en pèlerinage ici à Rome. Mais au niveau local aussi, on y pensera ce qu'on peut faire. Mais je ne saurais pas vous dire quoi pour le moment.
Donc, nous attendrons au moment opportun et continuons toujours sur la vie de l'Église aux Comores. À ce jour, quelles sont les priorités et les défis auxquels vous faites face?
La grande priorité pour nous, c'est de redynamiser notre pastorale des jeunes. Nous pensons aller ou inviter les jeunes de toutes les îles qui appartiennent au vicariat apostolique de l'archipel des Comores à nous asseoir pour dialoguer, nous écouter mutuellement, partager notre mission que nous devons accomplir là-bas, comme l'avons entendu au congrès. La mission est une mission du Christ et de l'Esprit. Et donc, nous aurons le temps d'écouter aussi l'Esprit, de nous mettre à l'écoute docile à l'Esprit pour qu'il nous ouvre les horizons et sur ce que nous devons pratiquer dans notre pastoral. Quant aux défis, les défis sont énormes. C'est un pays et...
C'est un archipel.
Archipel, voilà.
Formé de plusieurs îles.
Plusieurs îles, 4 d'ailleurs, et qui sont séparées. Mais ce qui nous coûte, c'est le transport. Comment quitter ici pour aller rejoindre les autres de l'autre côté. Et particulièrement pour l'île de Mayotte, qui est un département français, pour y aller, donc il faut avoir les visas. Et c'est un long processus qu'il faut suivre aussi. Voilà les défis que nous rencontrons dans notre pastorat, dans ces milieux.
Les défis d'ordre logistique, donc.
Voilà.
Et merci Père, auriez-vous un mot de la fin?
Le mot de la fin, c'est de remercier le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, pour cette initiative et pour l'invitation dont nous avons été bénéficiaires. Remerciement aussi à la Radio Vatican qui nous accorde ce temps de nous exprimer. Sinon, nous allons nous mettre à l'écoute, au dialogue, à l'accompagnement et sous l'Esprit Saint, je pense que tout sera possible. Merci beaucoup.
Père Jean-Claude Migiri, secrétaire chancelier de Mgr Charles Maouza Yava, évêque des Comores, interrogé par Stanislas Kambashi. Et refermons cette édition par l'actualité internationale de la semaine qui nous est présentée par Marie-Josée Moindo.
Commençons l'actualité internationale de la semaine avec l'Irak où 8 personnes condamnées à mort pour terrorisme et appartenance au groupe djihadiste État islamique ont été pendus dans le sud de ce pays. Des sources de sécurité et médicales indiquent qu'il s'agit du troisième groupe à être exécuté pour ces mêmes accusations depuis fin avril. Ces dernières années, les tribunaux irakiens ont prononcé des centaines de peines capitales et de condamnations à perpétuité, car le code pénal prévoit une peine pouvant aller jusqu'à la mort pour quiconque a rejoint un groupe terroriste que l'accusé ait combattu ou non dans ses rangs. L'ONU a rendu un hommage officiel jeudi au président Ebrahim Raisi, décédé dans un accident d'hélicoptère lors d'une session de l'Assemblée générale. Après une minute de silence de l'Assemblée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a répété ses condoléances aux familles des proches du président et des autres victimes de l'accident du 19 mai, ainsi qu'au peuple iranien. Par ailleurs, l'inscription des candidats pour l'élection présidentielle anticipée fin juin a débuté jeudi en Iran. Initialement prévu au printemps 2025, le scrutin a été anticipé au 28 juin. Dossier ukrainien, les pays du G7 et leurs alliés ont exprimé vendredi leur vive inquiétude face à la coopération militaire croissante entre la Corée du Nord et Moscou et appelé Pyongyang à cesser ses transferts d'armes illégaux vers la Russie pour conduire sa guerre contre l'Ukraine. Le dernier train de sanctions prises par le G7, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et l'Union européenne constituent un effort coordonné pour faire répondre de leurs actes la République populaire et démocratique de Corée et la Russie et pour faire supporter un coût financier aux acteurs et entités impliqués dans les transferts d'armes. Au sujet du sommet pour la paix en Ukraine qui se tiendra bientôt en Suisse, la Chine a estimé vendredi qu'il lui serait difficile de participer à cette rencontre si la Russie n'y est pas conviée, une déclaration approuvée par Moscou. Dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait exhorté ses homologues américains et chinois à participer à la conférence sur la paix en Ukraine prévue les 15 et 16 juin, dont la Russie, qui n'est pas invitée, prédit d'ores et déjà l'échec. Les États-Unis ont dénoncé vendredi les poursuites politiquement motivées à Hong Kong après que 14 militants pro-démocratie y ont été déclarés la veille coupables de subversion. Les accusés ont été soumis à des poursuites politiquement motivées et emprisonnés simplement pour avoir pacifiquement participé à des activités politiques protégé par la législation de Hong Kong, a déclaré le porte-parole du département d'État américain Matthew Miller dans un communiqué où il annonce également de nouvelles restrictions de visa envers des dirigeants de la Chine et de Hong Kong. Les forces américaines et britanniques ont mené dans la nuit de jeudi à vendredi des frappes aériennes au Yémen contre des positions des rebelles houthis qui ont fait au moins 16 morts et 35 blessés. Selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, ces frappes conjointes ont été menées contre 13 sites afin de prévenir de futures attaques de ces rebelles soutenus par l'Iran à mer Rouge et dans le golfe d'Aden. L'avocat de l'ancien président américain Donald Trump, Todd Blanche, a fait savoir jeudi qu'il comptait faire appel du verdict de culpabilité contre son client dès qu'il le pourrait, après d'autres étapes judiciaires. La décision jeudi d'un jury new-yorkais de reconnaître l'ancien président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, coupable, a ravi les détracteurs et suscité la colère de ses partisans. Les détails avec Loïc Lory.
Face au tribunal de Manhattan, devant les caméras du monde entier, quelques Trumpistes traînaient hier soir leur désespoir après l'énoncé du verdict, Raoul notamment, casquette rouge sur la tête. Dégoûté, je n'y crois pas, c'est un cauchemar, on espérait du bon sens de la part des New-Yorkais, pas qu'ils aient tant de haine. Je crois que l'un des jurés le jugeait innocent, mais qu'il a eu peur d'aller contre la majorité. Nous voterons malgré tout pour lui, hurle ce partisan du républicain. Le véritable verdict, ce sera le 5 novembre, affirme d'ailleurs Donald Trump. Jim ne lui fera pas faux bon. Évidemment que je voterai Trump en novembre. Je voterai républicain toute ma vie, donc frustré de ce verdict, mais je continue de penser qu'il gagnera en novembre. Mais de l'autre côté de la barrière, les anti-Trump, eux, espèrent bien, comme Jennifer, que cette condamnation réduira ses chances de victoire.
Je l'espère bien. Quiconque n'est pas totalement coupé du réel doit désormais réaliser que c'est un criminel condamné, déjà condamné aussi pour agression sexuelle. Les preuves étaient manifestement accablantes. C'est un escroc, il ne devrait être responsable de rien.
Et ils patienteront désormais jusqu'au 11 juillet pour connaître sa peine. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
La campagne a pris fin mercredi au Mexique avec les derniers meetings de la favorite à l'élection présidentielle du 2 juin, Claudia Sheinbaum, et de sa rivale Xochitl Galvez et un nouvel assassinat d'un candidat à une élection locale. Terminons avec la canicule en Inde où au moins 14 personnes sont mortes en un seul jour dans l'état du Bihar dans le nord-est du pays suite à la vague de la chaleur qui frappe une grande partie du pays.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Lossambé qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes. Bye.
majesté, Seigneur, tu règnes.